Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur sur les psaumes et on en est arrivé au psaume, on a fini le psaume 112, nous allons attaquer le psaume 113. Le psaume 112 avec un verset fameux, le verset 7. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Psaume 112, verset 7, c'est écrit, « Il ne craint pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. » Voilà, nous allons continuer le psaume avec le psaume 113. Le psaume 113 et avec d'autres séries de psaumes sont appelés des psaumes Alléluia. Voilà, c'est des psaumes qui commencent par Alléluia. Chez nous, en français, c'est écrit « Louer l'Éternel », mais « Louer l'Éternel » veut dire « Alléluia ». Et en hébreu, et donc ça s'appelle des psaumes « Alléluia ». Et quand on va passer donc du 115 au 118, ça s'appelle le grand « Allel ». Le grand « Allel ». Et donc le grand « Alléluia », ce sont des choses, ce sont des psaumes qui étaient chantés pendant la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte, la fête des tabernacles et la fête de la dédicace. Donc, c'était des psaumes célèbres à l'époque. C'était utilisé donc, à chacune de ces fêtes. Et je crois que le psaume 113 et le psaume 112, peut-être, c'était utilisé avant le repas de la Pâque et on clôturait avec le psaume 115 jusqu'au psaume 118. Pour finir le repas de la Pâque. Mais voilà, donc c'est à peu près ça le côté historique. Nous allons donc attaquer ce fameux psaume Alléluia, psaume 113.
Psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel.
Amen. Louez l'Éternel. On nous exhorte une fois de plus, une énième fois dans les psaumes, à louer Dieu du lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est finalement l'instruction semblable à celle de psaume de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. On nous exhorte à louer Dieu à tout moment. Et nous l'avions dit dans les interventions précédentes, c'est que la louange nous met dans un état conforme à l'état de Dieu. Parce que quand on se regarde en tant qu'homme, on regarde l'humanité, il y a beaucoup de choses négative qu'on peut voir. Et cette vision, ces observations, ça contribue à altérer notre vision aussi de Dieu. On a tendance à associer ce qu'on voit de négatif aux capacités de Dieu. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ne se convertissent pas à cause de ça. Ils se disent, mais quel est ce Dieu qui va permettre que les enfants soient violentés, soient maltraités, soient abandonnés? Quel est ce Dieu qui va permettre la famine? Il y a des enfants qui meurent de faim. Et à cause de tout ça, ils ne veulent pas accepter la réalité de Dieu. Et du côté des chrétiens, la vision des choses négatives les amène avoir une foi altérée, une foi diminuée, une foi qui n'a pas de consistance, une foi qui demeure rituelle, c'est-à-dire qu'ils ont des activités qu'ils mènent rituellement, mais au fond, ils ne croient pas trop. Voilà. Et ils ont pris juste comme un ticket pour le ciel, mais la réalité de Dieu dans tous les actes de la vie, ils n'y croient pas trop parce qu'ils voient trop de choses négatives autour d'eux. C'est pas bon. Et qu'est-ce qui peut réparer ça? C'est la louange. La louange nous permettra de voir Dieu toujours en haut, Dieu au-dessus de tout ce que nous pouvons voir de mauvais, de méchant. D'ailleurs, le verset 4 le dit. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Voilà, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. En haut ne veut pas dire seulement le haut physique, mais c'est-à-dire dans une dimension qui est au-dessus de la nôtre. Il abaisse le regard sur les cieux et sur la terre. C'est une position de supériorité. Dieu regarde les choses d'en bas. Une fois, j'avais fait un témoignage concernant mon voyage de, je crois, la ville de Détroit, aux États-Unis, à la ville de Toronto. Et sur le parcours, j'ai regardé en bas, j'ai vu une sorte de trou avec comme de l'eau qui coulait. Mais ce petit trou que moi, tel que moi je vis d'en haut, en réalité, c'était les chutes immenses et majestueuses du Niagara. Mais quand tu es au-dessus de l'avion, quand tu es dans l'avion au-dessus de la terre, à l'altitude où on était, je voyais ça comme un trou fait par un enfant. Et il fait couler. Vous savez, quand on était enfant, on jouait avec des seaux, avec des pelles, voilà. On jouait à faire passer, on créait de canaux sur terre à la mesure des enfants. Et on y faisait passer de l'eau. Et c'est comme ça, c'est ça que ça m'a donné l'impression de cela, parce que j'étais en haut. Je regardais les choses d'en haut, je voyais les chutes de Niagara comme quelque chose de petit. Bon, imaginons Dieu maintenant. Parce que moi, j'étais à quelle altitude? 10 000 mètres. 10 kilomètres. Mais Dieu, il est de loin plus haut que ça. Donc, il doit voir les chutes de Niagara comme quoi? Même pas comme une goutte. Alors, c'est ça qu'on veut nous faire comprendre. On veut nous faire comprendre que Dieu est plus haut que tout. Il est tellement grand qu'il regarde tout d'en haut. Il regarde comme ça. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Même pas sur la terre seulement, mais sur les cieux. Sur tout l'univers, il baisse des regards, ses regards. C'est extraordinaire. Et la louange nous permet de garder cette dimension-là. C'est ce qui explique que les chrétiens persécutés en prison pouvaient tenir dans la foi parce qu'ils louaient Dieu. On rappelle ce qu'est la louange, citer les hauts faits de Dieu, tout ce que Dieu fait, a fait d'extraordinaire et qu'il fait encore. La création, c'est ce que Dieu a fait d'extraordinaire. La pluie, les merveilles de la nature, le salut, l'œuvre de Christ à la croix, ce sont les œuvres de l'Éternel. Et donc quand on se rappelle de ça et on lui accorde du crédit à cause de ça, c'est ça la louange, eh bien, ça nous met dans un état semblable à son état à lui. On est comme élevé à son niveau. On se souvient de cet épisode miraculeux dans la prison intérieure, dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Paul avait des ceps aux pieds, des gros morceaux de bois qui te serrent les pieds. C'est les anciennes menottes, quoi. Voilà. Mais, donc c'était immense, qui te serrait les pieds. Et finalement, en louant Dieu, tout ça s'est cassé. Les murs de la prison se sont cassés. Dieu a manifesté sa gloire. Donc, quand on loue Dieu, on monte au niveau de sa gloire. on monte au niveau de ça, de réalité, et les choses d'en bas deviennent petites. C'est ce qui peut expliquer que des gens comme ça, emprisonnés, ou bien qui reçoivent une mauvaise nouvelle en ce qui concerne les examens médicaux, ils louent Dieu, ils glorifient Dieu. Parce qu'ils comparent à la grandeur de Dieu. Nous sommes appelés à pratiquer la louange si on veut voir la gloire de Dieu. La louange également va nous aider à aimer les autres. Parce qu'on va entrer dans une dimension divine et on verra les choses différemment quand on regardera les humains, puisqu'on les voit avec le regard de Dieu lui-même. On a besoin de louer Dieu pour même voir les autres avec un regard d'amour, de compassion. La relation avec Dieu, c'est ça qui est capital. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le seul commandement que le Seigneur nous a laissé. Il a dit, il y a un autre qui lui est semblable, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en réalité, le deuxième ne vient que du premier, parce que quand tu loues Dieu, tu l'aimes, tu l'élèves, tu consacres ta vie à lui, tu atteins comme sa dimension, tu es élevé à sa dimension, tu vois les choses comme lui, finalement. C'est ça la force de l'adoration et de la louange. Dieu nous a créés à son image, mais on a altéré cette image par le péché. Comment y retourner? En nous inclinant dans l'adoration et la louange. Ce qui laisse supposer qu'il y a la repentance avant tout ça, et en reconnaissant qui il est, en le proclamant, on lui redonne sa place. Et finalement, notre péché d'origine, quel a été notre péché d'origine? Ça a été la rivalité avec Dieu. La louange va casser cette rivalité avec Dieu. Ça va lui redonner sa place de Dieu, et nous, on récupère notre place d'homme. Eh bien, c'est ce qui fait qu'on est aussi béni et libéré. Psaume 18, 4 dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis, puisqu'on entre dans sa dimension à lui pendant la louange. Donc, c'est très important. Là, il est écrit au verset 7, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. C'est comme si on nous disait, si vous louez Dieu, même quand vous êtes pauvre, vous allez sortir de là. Vous allez sortir de là. Si vous louez Dieu, même si vous êtes stérile, vous allez enfanter. Parce que vous entrez dans la dimension divine, ce qui brise les chaînes, ce qui ouvre les portes de bénédiction céleste. Dans le psaume 122 qu'on verra, il s'est écrit, Dieu siège au milieu de louanges de son peuple. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je me souviens d'une femme qui n'enfantait pas du tout, mais dans sa consécration à Dieu, c'était impossible parce qu'il y a ne pas enfanter. Elle, biologiquement pour elle, les médecins avaient dit que c'était impossible. Voilà. Mais elle a fini par avoir 15 enfants. Donc, quand je lis ça, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Je dis vraiment, c'est la vérité. Mais, bien-aimé, constance dans la louange. Persévérance, dire toujours Dieu est grand. Un problème arrive, tu places Dieu au-dessus. On nous parle de guerre, tu places Dieu au-dessus. On nous parle de la montée des prix, tu places Dieu au-dessus. Voilà. Mais quand tu commences à paniquer, quand tu commences à reculer, tu n'as pas placé Dieu au-dessus. Il n'y a pas la louange. La louange, ce n'est pas seulement les belles paroles. C'est une vie où tu comptes sur Dieu en le plaçant au-dessus de tout. C'est ça la louange aussi. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous sommes dans une époque rempli tellement de difficultés que si on n'entre pas dans la louange, on ne va pas s'en sortir. Il faut qu'on entre dans la louange au nom de Jésus. Amen. Psaume 114.
Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau.
Amen, 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 amen. La question, c'est qu'avez-vous, qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, colline, comme des agneaux? Premièrement, il y a des gens qui peuvent se dire, mais les montagnes n'ont jamais sauté. Les collines n'ont jamais sauté. Et voilà, comment on peut comprendre tout ça? Il faut comprendre les choses de cette manière. C'est que il y a comme un doublage qui se fait toujours par rapport aux choses de la terre et aux choses du ciel. Il y a le verset suivant. Ce que vous aurez lié sur la terre aura été lié au ciel. Voilà, ça montre qu'il y a un doublage qui se fait souvent. Donc quand il y a quelque chose qui se passe sur la terre, il y a comme son équivalent au ciel et vice-versa. Et on se souvient de l'histoire de Samarie où Élisée et ses serviteurs étaient entourés des soldats de Syriens en grande quantité et son serviteur tremblait. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, il a dit plutôt au Seigneur, « Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que les autres. » Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Il a vu la montagne remplie de chars et de soldats de feu. Vous voyez, peut-être avec nos yeux, nous ne voyons pas, mais ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est des gros tremblements, de gros mouvements pendant que Dieu est en train d'agir sur terre. Et nous ne voyons peut-être pas ça. Mais en ce qui concerne la mer, les gens ont vu quand même la mer se séparer. En ce qui concerne le Jourdain, pareil, le Jourdain aussi s'est séparé à un moment donné avec Josué. Mais que les montagnes sautent, c'est une réalité en esprit, qui ne s'est pas forcément traduite visiblement, comme beaucoup d'autres réalités, comme ce que je viens d'expliquer concernant les soldats qui entouraient Élisée, son serviteur n'avait pas vu. Voilà. Donc il y a des choses que nous, on ne voit pas, mais ça se passe vraiment. Pour des gens qui sont dans une autre dimension, ils voient comment les montagnes tremblent au passage des enfants de Dieu. Et c'est ça la grande leçon de ce psaume 114, parce que la question, c'est « Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Colline, pourquoi vous sautez comme des agneaux ?» La réponse nous est donnée au verset 7. « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. » Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On veut nous dire que pendant que le peuple de Dieu fonctionne, avance, Dieu est au milieu de lui. Puisque le verset 7 dit, tremble devant le Seigneur. La question c'est, mais pourquoi vous les montagnes vous agitez? Pourquoi la mer fuit? Pourquoi le fleuve fuit? Parce que Dieu étant là, La création vibre, tremble devant sa gloire. La création ressent la grandeur de Dieu. Même quand nous nous faisons les orgueilleux, la création, elle, ressent ça. Il est dit dans Marc au chapitre 1er que Jésus-Christ, quand il était dans le désert en faisant son jeûne, il était environné des animaux, d'animaux sauvages. Il y avait des animaux sauvages à ses côtés qui ne lui faisaient rien parce que ces animaux ressentaient la gloire et la puissance de Dieu et ils se calmaient. Et ces montagnes qui s'agitent, ces collines ressentent la grandeur de Dieu. Mais où est donc cette grandeur? Puisque on va revenir maintenant au début du psaume. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. La mer a vu Israël, a vu les enfants d'Israël et a fui. Maintenant, la réponse est quoi? Mais pourquoi elle fuit? Pourquoi les montagnes s'agitent? Verset 7, parce que le Seigneur est là. Parce qu'en réalité, il s'agit devant le Seigneur. Donc, où se trouvait le Seigneur? Au milieu de son peuple. Quand son peuple avançait, le Seigneur était avec eux. Ça veut dire que quand nous, les enfants de Dieu, nous sommes en mouvement, en action, le Seigneur est avec nous. On va lire un verset, Sophonie 3:17. Sophonie 3:17. Ah oui, question?
Oui, nous, les enfants de Dieu, quand on fonctionne, quand on avance, les autres personnes, en fait, voient certaines choses que nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne voyons pas.
Nous ne voyons pas.
Donc, peut-être les personnes mal intentionnées peuvent voir ça en nous sans que nous nous en rendions compte.
Voilà, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de témoignages sur ce sujet. Hein. Ou bien quelqu'un qui se fâche contre toi parce que... il a ressenti comme une frappe mais qui sortait de toi. Mais cette frappe-là, ça ne vient pas de toi, c'est Dieu qui s'est servi de toi. Et la personne a reçu ça comme une agression et il se fâche contre toi. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi il se fâche alors que tu n'as rien fait. Il y a même des gens aussi qui deviennent fuyants. Tu le rencontres, il a un regard fuyant, il est gêné. Maintenant, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, Dieu lui a montré dans le deuxième monde, parce que c'est souvent des gens de deuxième monde, il leur a montré, en utilisant tes yeux à toi, qui les a vus. Maintenant, eux, ils pensent que toi, consciemment, tu les as vus. Oh, toi, tu n'as pas vu. C'est Dieu qui les a vus en utilisant tes yeux à toi. C'est comme si Dieu leur disait, je te vois. Mais quand il dit, je te vois, il utilise ton visage et tes yeux. Et eux, ils pensent que toi aussi, tu sais. Du coup, ils réagissent en étant honteux, regard fuyant. Mais alors que toi, tu n'as rien fait. C'est la présence de Dieu qui fait tout ça.
D'accord. Deuxième question. Est-ce que donc les personnes qui sont dans les hôpitaux psychiatriques, celles qu'on appelle bon, même parfois hein, les fous, est-ce qu'elles voient ces choses-là, en fait? Quand ils disent « Ah, mais je vois ceci, je vois cela, je vois... »
Effectivement.
Donc, ils voient vraiment ça.
Ah, parce que les fous sont dans deux mondes à la fois. C'est ça même le principe de la folie. C'est le fait que la personne se retrouve dans deux mondes à la fois. Et du coup, ça, pour les gens du monde physique, c'est de la folie. Parce que lui, il parle des réalités que les gens du monde physique ne voient pas. Et... il perd aussi en même temps en sensibilité sur le monde physique. Parce qu'il est dans deux mondes, il perd en sensibilité sur le monde physique. Du coup, des sentiments comme la honte, tout ça, ce n'est pas réel parce que la personne voit les choses à demi-spirituelles. Or, bon, en esprit, par exemple, nous, on est habillés. Mais quand quelqu'un et dans le péché, dans le monde spirituel, il est nu. Il est nu. Donc c'est, mais pourtant, physiquement, il est habillé. Mais si on nous transposait le doublage, comme j'ai dit, il y a un doublage spirituel, si on nous amenait dans le doublage spirituel, on le verra nu. Dans le monde physique, on a des lampadaires, déjà, il y a le soleil qui nous éclaire. Il y a en plus la nuit dans les villes développées. Il y a l'électricité, c'est éclairé. Mais si on te transpose dans le doublage spirituel, les gens qui sont partis au paradis, ils disent toujours, quand ils regardaient la terre, c'était la nuit noire. Pourtant, ça pouvait être la journée. Mais la terre, pour eux, ressemblait à un endroit d'obscurité avec quelques points lumineux que représentent les chrétiens. On voit que quand quelqu'un est maintenant dans les deux à la fois, les deux, ça fait ce qu'on appelle la folie. Et ces gens-là voient des choses que nous, on ne voit pas.
Question Internet. On aspire à voir cette grandeur, mais du coup, c'est nos yeux qui sont fermés ou c'est une volonté de Dieu de ne pas nous dévoiler cela?
Quelle grandeur?
Je crois le monde spirituel, tel que le combat que tu expliques, les choses qu'on peut voir, que quelqu'un te voit.
Non, il ne faut pas chercher ça. Hein.
En tout cas, je termine la question comme ça, tu vois. On aspire à voir cette grandeur, mais du coup, c'est nos yeux qui sont fermés ou c'est une volonté de Dieu de ne pas nous dévoiler cela. Dans le monde occulte, on parle du troisième œil. Du troisième œil, où il voit des choses et nous met à part. Ponctuellement, nous ne voyons pas tous les jours. Du coup, à quoi c'est dû?
Oh, c'est dû au fait que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut que nous marchions par la foi et non par la vue. Voilà. Il nous a bloqués. D'ailleurs, je pense que c'est le fruit qu'il a défendu à Adam. Il nous a bloqués l'interaction avec le monde des esprits, sauf quand c'est lui-même qui nous utilise. Mais de nous-mêmes, on n'a pas le droit. D'ailleurs, c'est ça la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est que la personne reçoit des démons, qu'on appelle des démons guides, qui la rendent capable d'entrer en interaction avec le monde invisible, le monde des esprits. C'est ça la sorcellerie. Donc quelqu'un arrive à traverser la frontière visible et invisible grâce à l'aide des esprits guides. Alors que nous, Dieu nous interdit de faire cela consciemment, il peut nous utiliser sans qu'on s'en rende compte. Et c'est très rare qu'il nous utilise dans ce système-là et qu'on s'en rende compte. C'est très rare, c'est exceptionnel. Mais en général, il nous utilise. Nous, on ne se rend pas compte. Il y a quelqu'un qui nous dit tout simplement, mais j'étais en difficulté, j'ai fait un rêve, j'ai vu que tu es venu me défendre, mais toi-même, tu dormais, tu ne savais pas toi aussi. Voilà, donc c'est ça. Mais il ne faut pas rechercher avoir le monde invisible. On peut attraper la sorcellerie comme ça. C'est très dangereux. Nous, on est appelé à marcher par la foi, en la parole de Dieu. Croire en ce qui est écrit, fonctionner avec ça. Voilà, donc je disais ça par rapport à la louange. Donc quand on loue Dieu, il y a comme une sorte d'élévation spirituelle, une sorte de dégagement de puissance qui se manifeste. Mais nous, on ne voit pas toujours. Et la parole est là pour nous rappeler, il faut le faire, vous ne savez pas ce que vous ratez. Voilà. Oui.
Oui, ma question concerne la louange. Et quand on lit Exode, Lévitique, pour aller un peu plus loin, on voit que Dieu... non seulement il a choisi de venir vivre, demeurer au milieu de son peuple qu'il avait choisi avec l'alliance avec Moïse, il est venu habiter au milieu d'eux. Il a fait des miracles incontestables qu'ils ont vus. Mais comment on peut expliquer en même temps le comportement de son peuple qui est contradictoire avec ce qu'ils disent par rapport à la louange? Puisque si je vois David avec les louanges, tout ça, mais on voit comment eux, ils se sont comportés en faisant des idoles, en louant. Même quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, il a fait quoi? 40 jours. Et en 40 jours, ils ont érigé autre chose, sachant qu'ils ont vu la mer se séparer en deux. Ils ont traversé, ils ont eu de la manne, ils ont eu beaucoup de choses. Mais derrière, ils font autre chose
Oui, mais ça, c'est l'être humain qui oublie. D'où l'intérêt de louer à tout moment. Parce que si on ne loue pas, ben, tu viens nous donner encore une autre raison. Quand on ne loue pas, ben, on oublie les bienfaits de Dieu, on oublie les grandes choses que Dieu a faites, mais on va avoir nos regards attirés sur les faux exploits du diable. D'où l'importance de louer à tout moment. Parce que l'être humain oublie. Mais il y en a plein, hein, des gens qui ont été aidés par un tel, mais qui oublient. Hein. Y a les enfants que les parents ont élevés, ils ont tout fait après des enfants qui viennent, qui abandonnent leurs parents, tout ça, tout ça. Voilà, les gens oublient, ça existe. C'est ça même la déception qu'on retrouve dans la société.
Ça veut dire que l'homme a la mémoire courte en fin de compte.
L'homme est mauvais, voilà. Jérémie 17, il a un cœur tortueux. Mais louer Dieu, ça nous permet de revenir, de nous souvenir. Ça nous permet de ramener. Voilà, c'est important. Nous allons lire Sophonie 3:17.
Sophonie 3:17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse.
Amen, amen. L'Éternel est au milieu de toi. Bien-aimé, c'est la leçon du psaume 114. Dieu est au milieu de son peuple. Parce que la question c'est, pourquoi vous les montagnes vous sautez? Pourquoi la mer fuit? Mais parce que la réponse c'est qu'il tremble devant le Seigneur. Verset 7, il tremble devant le... Mais le Seigneur alors il est où? Il est avec son peuple. Bien-aimé, ce psaume montre combien nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et de plus, combien nous sommes importants aux yeux, pour la création de Dieu. Nous sommes le support sur lequel Dieu rencontre tout l'univers, c'est nous. Il se sert des humains. C'est extraordinaire. D'ailleurs, il nous a appelé son temple. L'apôtre Paul dit que nous sommes le temple de Christ, de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on soit à fond avec lui, à 100%. Nous sommes son support dans l'univers. C'est pourquoi les montagnes tremblent, les fleuves bougent, parce que Dieu est avec son peuple. Il est là. C'est très important, bien-aimé, d'avoir cette conscience-là. Quand nous allons en mission, quand nous voyageons, quand nous sommes à l'usine, quand nous sommes au bureau, Dieu est avec toi. Et cette conscience-là, et loue-le, sers-le, où que tu sois, parce qu'il est là. Il est au milieu de son peuple. Toi, peut-être, tu ne réalises pas, mais les autres réalisent. Les autres voient. D'où l'importance aussi du bon témoignage. Parce que nous représentons Dieu. Si on se comporte mal, tout va retomber sur lui. Voilà. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous passons au psaume 115.
Psaume 115. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, Confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel.
Amen. Alléluia. En fait, dans le texte original, c'est Alléluia. Louez l'Éternel. Et il est dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Ce ne sont pas les morts. Parce que dans psaume 116, on verra que et on verra un verset qui dit « Elle a pris aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime ». Ce n'est pas que la mort des justes soit un problème, non. Mais il nous a dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel ». Ça veut dire que, bien-aimé, celui qui loue Dieu doit être vivant. Il ne doit pas le faire comme si c'était un lourd fardeau, quelque chose qui pèse sur lui au point qu'il paraisse comme un mort, fatigué, défait. Non. Ce ne sont pas les morts. Pourquoi tu loues Dieu comme si tu étais mort? Tu avais des problèmes comme si tu étais dans un deuil. Ce ne sont pas les morts. Les morts sont morts. Ils ne font rien, ils ne bougent pas. Toi, tu dois être vivant quand tu loues Dieu. Tu dois être conscient de qui est Dieu. Mais nous qui avons compris, c'est une façon, c'est comme si on disait, verset 18, mais nous qui avons compris, nous bénirons l'Éternel tout le temps, dès maintenant et à jamais. Ce ne sont pas les morts. Hein, on a notre chant qu'on va chanter hein, tout à l'heure. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Nous allons chanter ça, bien-aimés, parce que nous... Cette série de psaumes, les Hallels, les Alléluia, ben ça nous pousse aussi à chanter le Seigneur, à pratiquer la louange qu'on est en train de lire. Voilà, dans le psaume 115, il y a nos bien-aimés qui ont même sous-titré ça « À Dieu seul la gloire ». Dieu seul soit la gloire. Ça nous montre que Dieu seul est Dieu. C'est pourquoi même le psalmiste, quand il commence, il dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Vous savez, même nous-mêmes, des fois, nous cherchons à ce qu'on donne gloire à qui? À notre nom. Qu'on donne gloire à quoi? À notre activité. On veut que ça réussisse parce qu'on a entrepris quelque chose. On veut que tout marche bien pour que ma réputation soit bien entretenue. On doit dépasser ça, on doit rejeter ça. On doit chercher la gloire de Dieu seul. Prier le Seigneur, dire Seigneur, je ne cherche pas à faire carrière. Je ne cherche pas à être félicité. Ce qui importe pour moi, c'est que tu te glorifies à 100% dans ma vie. C'est tout. C'est très important. Le diable est malin pour nous pousser à revendiquer des choses, mais finalement, quand on y regarde bien, on revendique pour que notre nom soit défendu. On revendique, on veut des miracles pour que ça soit clair qu'on est un vrai serviteur. On veut que l'Église grandisse pour que notre travail porte du fruit. Non! L'Église doit grandir parce que le nombre de chantres de l'Éternel, le nombre d'enfants de Dieu qui vont célébrer son nom doit augmenter. C'est Dieu que nous devons viser dans tout ce qu'on fait. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Rappelons-nous, en plus c'est le premier verset, hein, psaume 115, c'est le premier verset. Non pas à nous, donc dans tout ce que nous faisons là, comme activité, dans tout ce qu'on fait, le danger, c'est de le faire, pour produire un résultat qui justifie quelque part le travail mis en œuvre. Ce n'est pas ça que Dieu attend. Parce que le danger de tout ça, c'est quoi? C'est qu'on va y arriver, on va en arriver à ce que font les évangélistes d'aujourd'hui. On a fait 3 jours, il y a eu 50 000 personnes qui ont assisté, 25 000 conversions. On fait un bilan mathématique. Et il y en a qui sont partis loin. Peut-être que c'est dans de bonnes intentions. Mais bon. En tout cas, ce n'est pas ce que ce verset, ce premier verset nous dit. En dire, bon, il y a eu, on a dépensé 1 million de dollars, il y a eu 10 000 convertis, donc ça fait 100 dollars pour une conversion. Voilà l'efficacité. Alors que d'autres, ils le disent en comparaison avec d'autres qui dépensent telle somme, mais il n'y a que 5 conversions. Vous voyez là où on en arrive à ce genre de calcul économique. Ce n'est pas bon. Parce que Dieu, lui, il est prêt à dépenser 2 millions pour une seule âme. Ce n'est pas connaître, c'est mal connaître Dieu. Donc quand on commence à dire, mais telle méthode est efficace, parce qu'avec telle méthode, on arrive à... au résultat de 100 dollars pour une âme qui se donne, et avec telle autre méthode, là c'est 10 000 dollars pour une âme. Ah ben, donc le choix est clair, on va prendre la méthode de 100 dollars pour une âme. Est-ce que Dieu est dans ces calculs-là? Dieu est prêt à payer 20 millions pour une âme. Dieu est même prêt à ce que 2 chrétiens meurent pour sauver une âme. On a vu ça avec la conversion de Pavel. Ils avaient tué 2 chrétiens. Et c'est quand ils ont fouillé leur poche, il a récupéré le Nouveau Testament. C'est comme ça que lui-même s'est converti plus tard. Mais 2 chrétiens étaient morts. Si on suit ce genre de logique, on diminue Dieu. On diminue Dieu et on travaille pour nous-mêmes. Et je peux vous dire que beaucoup de gens qui ont bien commencé dans le Seigneur ont été pris par ce piège-là, sans s'en rendre compte, à travailler désormais pour une sorte de carrière, pour l'entreprise en elle-même, alors que nous devons être des serviteurs de Dieu, non pas nous, Seigneur. Regarde tout ce qu'on voit là. Ce n'est pas digne de ton nom. Voilà. Mais quand maintenant on commence à regarder, mais ça fait 20 ans que je travaille, j'ai fait ceci, Ah ben là, on est en train de sortir, on sort de la volonté de Dieu. Et ce qui est grave, c'est que Dieu peut agir quand même, hein, malgré le fait que nous, on tape à côté, hein, mais il agit pour sauver les gens. Mais nous, quand il agit comme ça, ça nous fortifie dans notre erreur, quoi. Et c'est ça qui est malheureux. Revenons aux Écritures. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Donc nous sommes comme... on n'est rien du tout comme toutes ces idoles-là que l'œuvre de l'homme, la main de l'homme a façonnées, qui ne peuvent pas parler. Hein, c'est ces idoles, des statues, c'est ce qui est décrié là. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, et ainsi de suite. Finalement, nous sommes comparables à tout ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour une vie d'un homme? On a vu Jean-Pierre Pernaut. Comment quelqu'un à 71 ans, il meurt, multimillionnaire. Si vraiment l'homme était fort, ils auraient pu le sauver. Hein. Mais ça montre les limites de l'homme. On n'est rien. Donc que la gloire revienne à Dieu seul. Si les gens te félicitent, tu dois répondre systématiquement à Dieu seul la gloire. Gloire à Dieu. Il faut éviter, parce que tous nos prédécesseurs, la plupart, ont chuté. Le début de leur chute, c'est quand ils commencent à ne pas donner à Dieu seul la gloire. Le début de la chute commence là. Ça ne commence pas par l'amour de l'argent. Ça commence par ne pas donner Dieu à lui seul gloire. Quand on dit par exemple à Saül, élimine tout ce que tu gagneras là-bas dans cette guerre, tu détruis tout. Mais lui se dit, mais non, je ne peux pas tout détruire, c'est de belles bêtes. Ça peut nous servir même pour des sacrifices, pour ce même Dieu-là. Samuel lui a dit, mais mon vieux, quand tu étais petit, c'est Dieu qui a fait de toi un roi. Maintenant, il te donne l'ordre de tuer des animaux, tu refuses. Mais qui t'a fait roi? Cet homme n'a pas rendu gloire à Dieu. Dieu dit, tu tues. Mais lui, il dit, mais non, ça va servir. Au fait, la chute commence là parce que les gens vont, qui résonnent à une deuxième couche d'intérêt, ils vont se dire, ah ben oui, mais lui, il a regardé à la qualité des animaux. Non, la première couche, c'est qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu. Il n'a pas voulu honorer Dieu. Dieu qui lui a dit, tu fais ça, il a résisté à Dieu. C'est ça la première couche. Là, l'histoire des bêtes n'arrive qu'en deuxième position. C'est ça la réalité. Et nous sommes appelés, bien-aimés, à donner à Dieu seul gloire, la gloire. Israël, confie-toi en l'Éternel. C'est lui ton bouclier. C'est lui qui multipliera ses faveurs à nous et à nos enfants. Si nous lui donnons à Dieu, à lui seul la gloire, nous allons voir, bien-aimés. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Hein. Ceux qui ne donnent pas à Dieu seul la gloire, ils brillent plus facilement au milieu des hommes. Effectivement, les hommes aussi sont à la recherche d'une idole. Maintenant, quand quelqu'un ne donne pas à Dieu seul la gloire, il va se constituer des systèmes de recevoir la gloire. Et ces systèmes-là, les hommes, ils aiment beaucoup ça. Ils sont friands de ça. Un style de coiffure, un langage avec un style, un habillement particulier, les hommes aiment ça. Tu viens avec un système, avant de prêcher, tu tournes trois fois la tête. Les hommes, il va commencer. Là, les hommes aiment des spectacles comme ça. Ce qui fait que ce genre de personnages, eh bien, eux, ils vont attirer beaucoup plus de gens. Ça va donner une sensation d'efficacité, une impression d'efficacité dans leur travail. Et toi qui travailles dans la vérité, dans la simplicité, les gens vont trouver ça sans goût. Ah, mais c'est trop simple. Mais attention, c'est toi qui vas produire des fruits beaucoup plus solides. Parce que quelqu'un pour te suivre, ça doit être quelqu'un qui veut vraiment que de Dieu aussi. Puisque toi, tu ne fais que donner gloire à Dieu, tu vas attirer les gens aussi qui ne cherchent que Dieu. Du coup, tu vas bâtir quelque chose de beaucoup plus solide que tous ces gens-là qui bâtissent à cause de leur style, éloquence, façon de faire, qui attire, qui ne donne pas gloire à Dieu. Mais c'est, vous savez, c'est la fin qui va trancher. C'est pas le début ni le milieu, c'est la fin. C'est la fin qui va tout trancher. Donc, suivons la voie de la vérité. Donnons toujours à Dieu seul la gloire. Et on verra comment on sera bénis. Et il est écrit dans Apocalypse 3, les gens de la synagogue de Satan viendront se prosterner devant nous. Ils reconnaîtront que c'est nous qui avons vraiment Dieu. Amen. Oui, question.
Oui, bonsoir, pasteur. Je reviens sur la partie du psaume qui dit « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel ». Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ? C'est qui le mort ? Est-ce que c'est un mort physique ?
Oui, il fait une comparaison avec les morts physiques. Quand quelqu'un est mort physiquement, il loue pas Dieu. Il a la bouche fermée. Il ne peut pas louer Dieu.
Est-ce que les morts dans ce contexte, ce n'est pas les gens qui ne connaissent pas Dieu? Parce que si on revient dans, je ne sais pas si c'est Matthieu 8, quand un disciple, quelqu'un qui dit à Jésus, Jésus lui dit de le suivre, il dit, laisse-moi d'abord enterrer mon père. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts.
Ah, voilà.
Ce n'est pas le mort qui parle, il parle des gens qui ne connaissent pas Dieu.
Ah, il y a deux morts. Il y a le mort physique et il y a le mort spirituel. Celui qui ne connaît pas Dieu, les morts qui vont enterrer, et ils sont vivants physiquement. Mais celui qui est mort, il est vraiment mort physiquement. C'est son papa qui est mort, non, physiquement.
Oui, mais voilà. Il dit de laisser les morts enterrer leurs morts. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui ne connaissent pas peut-être le Seigneur,
voilà.
S'occuper du mort.
Oui, mais donc il y a deux morts. Il y a les morts qui sont ceux qui vont enterrer, qui sont vivants physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Mais il y a aussi un mort physique, le papa là qu'on va enterrer.
Oui.
Ah, voilà.
Donc, si je reviens au psaume.
Le mot mort peut avoir deux sens. Mais dans ce cas-là, quand on dit que ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, il est en train de faire une comparaison avec les morts physiques. D'ailleurs, le roi Ézéchias a utilisé ce passage pour faire chanter Dieu. Quand Dieu lui a dit, avertis ta famille, tu vas mourir bientôt. Prépare ta succession. Lui dit, ah mais non, il fait une longue prière à Dieu. Ce ne sont pas les morts. Donc, déjà, il se plaint, il dit, mais moi j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été correct, j'ai fait beaucoup de choses. C'est maintenant que tu veux me prendre. Et il dit, mais ce ne sont pas les morts. Ce n'est pas en étant mort que je vais te louer, quoi, en étant mort physiquement, là, puisque lui, il était de Dieu. Voilà. Donc, c'est une comparaison avec la mort physique.
D'accord. Dans aucun cas, c'est la mort spirituelle.
Non. C'est une comparaison avec la mort physique. Et Ézéchias a voulu tirer avantage sur ça pour vivre encore. Et ça a mal tourné. Mais nous, comment on doit comprendre ça? On doit comprendre le fait que si on doit louer Dieu, on ne doit pas être mort. On doit être vivant. Même si, il y a une partie de ce que tu dis aussi, dans le sens où, comme on a l'habitude de dire dans notre langage à nous, on ne va pas laisser les pierres louer Dieu, parce que Jésus avait dit, si les hommes se taisent, les pierres vont louer. Dans notre langage, à nous aussi, on a l'habitude de dire, on ne va pas laisser les pierres louer à notre place. Voilà. Quelqu'un aussi peut dire, ce ne sont pas les païens qui vont célébrer le Seigneur. Mais je pense beaucoup plus au mot physique dans ce cas-ci, puisque dans Psaume 150, c'est dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Donc même le païen peut louer Dieu sans s'en rendre compte. Voilà. Donc même les arbres, puisque tous ceux qui respirent, même l'animal, en ce qui concerne la louange, il peut être utilisé pour montrer la gloire de Dieu et attirer la louange. Mais là, c'est une comparaison avec les morts et l'interprétation, c'est que nous n'avons pas à être morts. On doit être vivant pour louer le Seigneur. Oui.
Oui, question Internet. Ce qui se passe de manière invisible sur le plan spirituel, dans l'action de Dieu, entre parenthèses, l'histoire des chars d'Élysée, c'est valable aussi pour les actes démoniaques, entre parenthèses, certains cauchemars, mauvaises paroles ou comportements.
Je n'ai pas compris pour les paroles et les comportements, mais pour les cauchemars, oui, effectivement. Certains cauchemars sont des combats spirituels. Oui.
Mais un mort spirituel peut quand même louer Dieu dans un moment de joie.
Oui,
de
donc là,
on l'a dit. C'est bon.
Oui, on l'a déjà dit là. On a déjà dit ça, oui. Le païen peut louer Dieu. Ok, psaume 116. Voilà, donc nous allons tout à l'heure chanter, hein, les musiciens. Donc, ce ne sont pas les morts. Donc, on fait le psaume 116 et puis on va chanter ce chant-là. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais.
Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux.
Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel.
Amen, louez l'Éternel. Voilà, nous allons chanter pour sa gloire. Le psaume 116, c'est un psaume de reconnaissance. Les gens reconnaissent, le monsieur reconnaît la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu. Il dit, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, il entend ma voix, ma supplication. Et jusqu'au point où même si je meurs, ma mort a de la valeur pour lui, quoi. Même si je meurs, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Même ma mort a de la valeur pour Dieu. C'est pourquoi nous l'aimons. Et il y a un chant encore qui se cache là, c'est au verset 12 et 13. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut. Voilà, tout est dans la parole de Dieu. Donc ce psaume 116 nous dit, Dieu est bon, Dieu est fidèle. Il a été, voilà, il m'a fait de bonnes choses. Nous allons le bénir, nous allons le louer, le glorifier. Vraiment, qu'il nous aide toute notre vie à le bénir et à le glorifier. Ce ne sont pas les mots qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons. Nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel. Ce ne sont pas les morts.
Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descend dans le silence. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel.
Ce ne sont pas
les morts qui célèbrent l'Éternel.
C'est un peuple vivant dans la gloire de Dieu.
Ce n'est aucun de ceux qui descend dans le silence.
Alléluia.
Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Mais nous bénirons l'Éternel. Dès maintenant et à jamais, louez l'Éternel.
Louez l'Éternel.
Louez l'Éternel.
gloire à toi, Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions. Nous voulons être un peuple vivant pour toi. Nous ne voulons pas jouer aux morts à cause des problèmes de la vie. Nous voulons considérer ta grandeur et te louer avec force, avec des cris de joie, Seigneur. Comme il est écrit, que ferai-je pour l'Éternel en retour de ses bienfaits? Seigneur, nous voulons encore te louer, te glorifier, te magnifier, toi le Dieu vivant, toi qui as vaincu la mort. Nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Ce ne sont pas les morts qui vont te célébrer, mais ce sont les vivants. Et toi, Seigneur Jésus, tu as dit, Dieu est le Dieu des vivants. Oh Seigneur, gloire à toi. Alléluia. Que ferai-je?
Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur.
Que ferai-je
pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur.
Que ferai-je
pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur. Je bénirai le nom du Seigneur.
Oh, tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de la mort, au-dessus des guerres, au-dessus des maladies, au-dessus de la pauvreté. Tu es Dieu au-dessus de la dépression, au-dessus de la folie, au-dessus de l'argent, au-dessus des humains. Nous nous prosternons devant toi, nous reconnaissons ta grandeur. C'est toi qui possèdes l'univers, le Dieu vivant. Plus rapide que la lumière, tu habites une dimension que personne ne peut atteindre. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous voulons fonctionner avec toi dans la louange. Aide-nous, Papa, dans tout cela. Au nom de Jésus, merci encore pour tout, Père. Amen.